Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. On est ensemble jusqu'à 13h. Installez-vous confortablement. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023. Il fait toujours beau dans le Beaujolais. Il fait toujours chaud aussi, jusqu'à 27 degrés cet après-midi. Et dans notre émission, comme chaque mercredi, on va parler alimentation et santé avec notre diététicienne Charline Simian et puis économie et société avec le prof Patrick. Mais d'abord, en première partie d'émission, on passe un moment avec nos invités du jour. Il s'agit de Céline et Jérémy qui ont fondé ensemble le groupe Amor, Amor avec un T en un seul mot, groupe encore un peu mystérieux avec une esthétique plutôt sombre qui évoque le Grand Ouest américain. On a pu entendre un seul titre pour l'instant, intitulé La Sorcière. Le clip sort demain. Et si le projet est encore un peu mystérieux, comme je le disais, Céline et Jérémy, on les connaît déjà un petit peu, dans une ambiance plus rayonnante, je dirais, avec le groupe Just Married Band. On va parler de leur musique et du groupe Amor, mais d'abord, on commence comme d'habitude avec un peu de musique. Leur histoire m'a fait penser à un film, un cow-boy qui rencontre une fille et monte un projet musical avec elle et puis tombe amoureux, il se marie. Ça m'a fait penser à A Star Is Born et je leur souhaite un destin un peu plus heureux que dans le film qui est plutôt triste, mais c'est l'occasion d'écouter un titre de cette superbe bande-son. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper avec Digging My Grave. On est ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Before we're through, burning up this town, spending everything I've saved. Yeah, you've been out all night digging my grave. Every little lie you tell can't keep it hid. It's just another night on a covered lid. Someone else is getting all the love you never gave. You'll be older, jumping right.
Lady Gaga et Bradley Cooper, Dig in My Grave, dans la BO du film A Star is Born.
Ensemble sur Calade.
Et c'est un film qui m'a fait penser un petit peu à nos invités du jour, Céline et Jérémy, qui viennent nous parler de leur groupe Amor. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir. Alors on a discuté un peu, on s'est dit que Alabama Monroe aussi comme film, ça aurait pu marcher.
Ouais, parce que je suis pas alcoolique en fait.
Mais il y a le côté cow-boy, c'était juste le côté
cow-boy. Ouais.
On va parler du groupe Amor ensemble, mais d'abord j'aimerais bien parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'à fonder ce groupe. Vous, d'abord, c'est une rencontre, c'était pas forcément une rencontre musicale au début, entre vous deux.
Ah bah non, nous avant tout c'est une histoire d'amour, parce qu'on est mariés tous les deux.
Ouais.
Et on a commencé à faire de la musique ensemble pour notre mariage. C'était une surprise pour nos invités. Et c'est comme ça qu'on a formé notre premier duo Just Married Band.
Ouais.
Voilà, où on faisait, et on fait toujours d'ailleurs, que des covers.
D'accord, duo de reprise.
Ouais.
Y avait quand même une esthétique assez marquée.
Parce que c'est quand même notre actualité principale.
Il y a une esthétique assez marquée qui est plutôt pop country,
pop folk,
country, un peu blues des fois. Mais oui, il y a un petit côté western, un petit côté cowboy et bohème aussi.
Qui vient d'où, c'est dans votre culture, c'est
En fait, au départ, quand on a commencé à faire des reprises, nous, on est des fans des films de Tarantino.
Ouais.
Et on faisait beaucoup de covers issus des BO des films, en fait.
Et il y a de quoi faire.
Donc, au fil du temps, ça évolue et on rajoute plein de choses. Mais il y en a toujours dans notre set, ouais. Donc, ça vient de là, je pense, ce petit côté western aussi.
Il y a des musiques que vous allez chercher dans des univers très étrangers et que vous venez ramener dans votre univers.
C'est,
Et des fois, c'est grâce aux radios, aux petites radios comme toi.
C'est-à-dire
des fois, on est sur la route et tout. Et moi, j'aime bien passer des fois la radio et des petites où justement, il n'y a pas des hits qui passent en continu.
Ouais.
Sortir un petit peu des sentiers battus. Et c'est arrivé sur la route de Lyon qu'on entende des morceaux. Et ça, c'est trop cool et tout. On revienne à la maison et qu'on les reprenne.
Il faut qu'on les reprenne. Et comment est-ce qu'on reprend justement pas forcément un hit, mais un morceau que peut-être tout le monde a déjà entendu, et comment est-ce qu'on le met à sa sauce?
Avec ses tripes.
C'est instinctif, ouais.
Ouais, c'est instinctif. Après, il y a aussi notre formule, parce que Jérémy a la particularité de faire guitare et batterie en même temps.
Ouais.
Et déjà, ça donne tout de suite un style. Il est plus batteur dans l'âme que guitariste, finalement.
Rythmique, ouais.
Rythmique. Et du coup, je pense que c'est ça qui donne beaucoup la patte de nos reprises, de nos covers.
Ouais. Just Married Band, ça a commencé en 2018.
C'est ça,
ouais.
Si je ne me trompe pas. Et un jour, vous avez décidé, du coup, de créer Amor.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous vouliez faire autre chose ou faire autrement? Pourquoi est-ce que...
Simplement, je pense que c'est la continuité. À force de faire des reprises, on a aussi envie, nous, de s'exprimer. On a des choses à dire, on a envie de donner de notre univers. Le monde de la reprise n'est pas forcément le même que celui des compos, c'est pas forcément le même public. Donc c'est un peu dans la continuité des choses. On a hésité, on s'est dit est-ce qu'on le fait avec Just Married Band ou pas, mais on a voulu créer une deuxième entité, un nouveau groupe, pour marquer le coup et pour faire bien la différence entre les deux.
Ouais.
Et puis parce que y a quand même des différences assez notables dans les deux, donc c'est vraiment un projet à part entière.
Ouais, parce qu'on a parlé rapidement de Just Married Band, mais vous tournez dans toute la France, tous les étés.
À l'étranger, partout.
Oui, en Suisse, Belgique,
en Suisse,
Hollande.
En Belgique, en Hollande. On a fait aussi une petite tournée en Floride cet hiver.
Ouais.
Donc, c'est cool.
Et du coup, là, c'était une envie d'écrire à mort.
C'était une envie d'écrire, une envie de composer et une envie d'aller vraiment à fond dans notre univers. C'est vrai qu'avec les reprises, dans la plupart des concerts, c'est vrai que les gens sont en demande de reprises de choses quand même qu'ils connaissent.
Mmh.
Et voilà, et là, nous, on avait envie de faire vraiment, même si on fait des reprises que de chansons qu'on aime, là, on avait envie de faire nos chansons. Ça n'a rien à voir, en fait, de chanter ses propres paroles, jouer ses propres riffs, faire son univers même visuel, avoir une autre histoire. Donc là, c'est un projet artistique complet, finalement.
Et ce que je disais un peu au début de l'émission, un peu plus sombre, je trouve, le Just Marine Band, c'était quelque chose de...
Et en fait, on est un peu plus
rayonnant.
Ouais, non, mais c'est, oui, bah, on se laisse plus aller aussi dans ce qu'on aime. On a ce côté un peu dark, un peu sombre depuis toujours. Jérémy, il est quand même issu du métal extrême au départ. Voilà, enfin, moi aussi, c'est... Voilà, donc... et je pense qu'on arrive mieux à le faire ressortir avec Amor.
Okay.
Tout à fait.
Et juste le nom du groupe, Amor avec un T, moi j'ai trouvé que c'était du latin, mais je sais pas.
C'est un mélange d'amour, c'est un mélange de l'amour jusqu'à la mort. Voilà, c'est... On trouvait que ça nous représentait bien, justement, ça montre un peu ce côté plus sombre.
Mais tout
toujours,
en restant...
quand on dit Amor, c'est un peu l'amour en espagnol aussi. Donc c'est de jongler entre ce côté sombre et le côté amoureux. Parce que tout vient de là au départ.
Ça résonne bien avec Just Married Band, en fait.
Ouais,
ouais,
tu vois,
voilà
ce que je veux dire.
Ouais.
C'est pas incohérent quand tu vois les deux.
Ça sort pas de nulle part, quoi.
Ouais. C'est ça.
Ouais. Et alors, pour l'instant, il y a qu'un seul morceau qu'on va pouvoir écouter après, qui s'appelle La Sorcière.
Ouais.
On va en parler juste avant de l'écouter, mais l'univers musical, est-ce que vous savez déjà où vous voulez aller ? Est-ce que vous avez déjà d'autres morceaux dans vos tiroirs qui sont prêts et que vous attendez de sortir, ou vous le construisez au fur et à mesure ?
On construit au fur et à mesure. On a plein de choses qu'on a envie de sortir. On a envie d'y aller doucement pour prendre le temps. En fait, on veut que chaque morceau ait l'opportunité de prendre vie.
Ouais.
Voilà, de prendre le temps de l'écouter. Pareil, on va sortir un clip. On a fait le choix de pas sortir l'image en même temps que le son pour que les gens puissent prendre le temps vraiment d'écouter avant de regarder. Et on veut les sortir les morceaux un par un, en fait, pour que chacun puisse vivre sa petite vie.
Et on est toujours dans cet univers un peu folk, un peu country, presque un peu plus rock même.
C'est pas country.
Folk western.
Ah ouais, alors c'est peut-être le visuel justement qui me trompe, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on se fait tromper par le visuel.
Et puis nous, on fait la différence entre country, où c'est vraiment un style de musique, et western, où on est plus tu vois, dans les BO de films western. Et c'est pas la même chose en fait pour nous, c'est pas le même univers. Mais il y a des sonorités effectivement qui se retrouvent. Jérémy, il joue de la Resonator. C'est un style de guitare assez particulier.
En slide,
avec un bottleneck et tout ça.
C'est celle en métal ?
Ouais,
c'est celle en métal.
D'accord, elles sont super belles en plus.
Ouais.
Elles sont belles et elles ont un son vraiment aussi différent de la folk. Donc il y a aussi de la guitare folk dans Amor, mais il y a vraiment ce son avec le slide qui est très différent, qui est très présent, qui donne ce côté justement western.
Ok.
Voilà, mais ça reste quand même de la pop, ce qu'on fait dans Amor.
Ouais. Pop folk, ouais, quand même.
Ouais.
C'est une volonté.
D'être ancré dans cette culture.
Ouais, ouais,
dans
on a assez donné avec l'underground. Maintenant, on a envie de. En fait, on va dire que c'est plus intéressant de pas avoir le côté ingrat d'un tout petit public, en fait. Mmh. Et puis aussi, on a appris à aimer ça, du fait des reprises. Donc, c'est très intéressant. C'est pas parce que c'est de la musique facile que c'est facile à faire.
Ouais. Bah, parfois, faire de la bonne musique facile, c'est d'autant plus difficile.
C'est
parce
ça.
Que...
Et surtout qu'on essaye de tout faire nous. C'est aussi la différence avec Just Married Band, c'est que là, on a appris à s'enregistrer nous, à se mixer, à tout faire. Alors qu'on a l'entourage pour, mais on les a tous mis au reclus. On leur a dit non, pour ce projet-là, on fait tout nous-mêmes.
C'est quelque chose de très personnel. Voilà. Que vous avez envie de garder juste pour vous.
Sauf le clip qu'on a fait faire par quelqu'un d'autre. Alors que Just Married Band, normalement, c'est l'inverse. C'est nous qui faisons les clips nous-mêmes. Et là, on a demandé à quelqu'un d'autre, à un couple, d'intervenir pour le clip.
Et avoir un regard extérieur, c'est peut-être les seuls, du coup, dans ce que vous m'expliquez, qui auront pu venir mettre leur touche artistique et leur mettre dans le travail.
Exactement. Et puis aussi, parce que tout faire, mine de rien, il ne faut pas se leurrer, c'est énormément de boulot. Donc, il y a quand même des choses où... Là, on avait en tout cas envie de déléguer cette partie-là pour cette fois, ouais.
Et puis, on avait envie de rentrer vraiment dans nos personnages quand tu fais tout, surtout derrière la caméra. Tu ne peux pas être derrière et devant la caméra et dans ton personnage en même temps. Mmh. Et surtout pour lancer le projet, pour moi, c'était très intéressant de pouvoir être vraiment dans mon cow-boy. Et pas juste en tant que caméraman et cow-boy 5 minutes après, et caméraman 5 minutes après, et cow-boy, tu vois.
Et alors moi, c'est une question que je me suis posée, forcément. Travailler en couple et être à deux dans la vie et au travail dans ce projet artistique.
Ouais.
C'est compliqué ou ça se passe bien?
Pour nous, c'est trop bien. Ouais. C'est un choix, donc voilà. Donc, nous,
ça serait compliqué si ce n'était pas le cas.
Ouais, c'est clair. Non, mais nous, on adore. Après, forcément que des fois, il peut y avoir des petites frictions, mais quand on en a, c'est toujours à cause de la musique, d'ailleurs.
Enfin, du coup, 5 minutes, en plus.
Mais nous...
Des divergences artistiques qui...
Pas tellement, artistiquement, on s'en sort très, très bien. Mais nous, on aime tout le temps être ensemble, on aime être collés. Justement, on a l'expérience. On sait qu'avec Just Married Bond, on était déjà tout le temps ensemble, donc on sait qu'avec Amor, c'est pareil. Mais nous, on aime être tout le temps ensemble, donc
alors, attention,
c'est une chance.
Et puis Amor, on le présente à deux, on le compose à deux, on le visuel est à deux, mais sur scène, on est en train de préparer, on sera quatre.
Ouais. Voilà. Vous entourez pour avoir plus de...
Parce que je compose deux guitares déjà,
ouais.
et puis on s'est beaucoup posé la question de la basse. Et on a fait intervenir un monsieur qui s'appelle Christophe Junion, qui est de notre région, qui jouait dans JMPZ, pour le plus connu.
Juju,
voilà. Mais il a dit qu'il était OK avec Christophe Junion. Et du coup, voilà, on l'a fait intervenir. C'est lui qui a enregistré la basse. C'est le seul instrument qui a été enregistré par quelqu'un d'autre sur ce morceau et les morceaux qui suivront. Et puis on aura un deuxième guitariste, parce que je fais deux guitares. Je maintiens le côté batterie-guitare en même temps pour ce projet-là. Pour l'instant, en tout cas, parce que c'est cool, je sais le faire, et c'est intéressant. Et c'est intéressant d'être quatre aussi, c'est une équipe qu'on connaît. Donc voilà, et puis peut-être que dans le futur, on verra comment les choses prennent, si on prend un batteur ou pas, mais pour l'instant, on trouve que la formule, ça peut être intéressant.
Et concrètement, batterie-guitare en même temps, c'est la grosse caisse et le charlet.
Grosse caisse, caisse claire. Ouais. Je fais grosse caisse, caisse claire, et je vais peut-être rajouter une cymbale avec un autre. En fait, je joue en électronique, mais ça reste, chaque coup est joué.
C'est juste trigué.
Donc j'ai mon pied droit, la grosse caisse comme tous les batteurs droitiers, et le pied gauche c'est la caisse claire, et je pense que je vais rajouter une cymbale ou d'autres effets avec d'autres pédales. Donc peut-être que j'aurai quatre pédales avec deux pieds, mais en tout cas je suis en train de vraiment réfléchir à ça pour Amor, pour pouvoir rajouter aussi
quelque chose. Pas peur de devenir schizophrène sur scène.
Non, c'est l'inverse.
Mais il est déjà.
Non mais c'est l'inverse. En fait je me sens mieux comme ça.
Ouais.
J'arrive mieux à jouer comme ça que juste
on
guitare.
On sort plein de choses en même temps.
En fait je suis guitariste batteur, je suis pas guitariste.
D'accord,
c'est vraiment c'est un complet quoi.
Si tu lui enlèves la batterie c'est plus compliqué.
J'arrive pas à groover en fait.
Ah ouais.
Ouais. J'ai vraiment le groove avec les deux, quoi. Mmh. Et c'est vrai que quand on travaille des morceaux et tout...
Il faut qu'il...
Céline, elle me dit, tu veux pas jouer la batterie en même temps?
Junior, en faisant les deux en même temps, mais c'est tellement une habitude maintenant
ouais,
que...
C'est ça.
C'est devenu naturel. Mmh. Bon, La Sorcière, on va l'écouter, ce titre, mais avant, on peut en parler un peu plus en détail.
Avec plaisir.
Qui c'est cette sorcière et de quoi ça parle?
Alors, La Sorcière, c'est un petit... Ça parle d'émancipation, ça parle de la force des femmes, surtout. Ça utilise vraiment ce symbole de la sorcière, mais de façon beaucoup plus moderne. C'est un peu un retournement de situation.
Et positif, c'est
exactement
ce qu'on l'a vu dans ces dernières années. La figure de la sorcière, beaucoup se le sont réapproprié.
Exactement.
Et en positif.
C'est ça.
Alors qu'il y a quand même une imagerie. Moi, depuis tout petit, les sorcières, elles me font peur.
C'est ça, tu la vois avec son nez crochu, et elle n'est pas belle, et voilà, il faut la brûler. Et bien là, c'est exactement ça. C'est exactement l'opposé. C'est utiliser ce symbole et ce personnage comme une force, en fait.
Et la sorcière, ça m'évoque la méchante sorcière de Blanche-Neige que vous venez de décrire, mais c'est aussi la persécution que les sorcières ont pu subir pendant des siècles partout dans le monde.
Exactement.
C'est des choses qui vous intéressent, du coup
Alors moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je suis très inspirée aussi du livre de Mona Chollet, je ne sais pas si tu connais. Qui s'appelle Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes, quelque chose comme ça. J'espère que j'écorche pas le titre. Et oui, ça parle de tout ça, et ça me touche parce que quand j'étais petite, on m'appelait la sorcière à l'école.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en grandissant, du coup, ça m'est resté un petit peu collé à la peau, et c'est un peu décidé d'en faire une force, ouais,
d'en
justement.
Faire une force plutôt que
ouais.
On va l'écouter ce morceau. Musicalement, on est dans ce qu'on évoquait juste avant, la guitare, le Grand Ouest. Et puis chanter en français et en anglais, ça aussi, c'est original.
Bah ouais.
On l'a pas décidé, c'est sorti comme ça.
En fait, j'ai commencé à écrire en français, en anglais. Je me suis dit, est-ce qu'on, du coup, on fait tout en français, tout en anglais? Je me suis dit, mais en fait, non, ça sonne comme ça. Et musicalement, ça nous plaît comme ça. Donc voilà.
Ce qui est étonnant avec en comparaison avec Just Married Band, c'est qu'on joue principalement en anglais.
C'est principalement en anglais.
Alors que là, oui, ceux qui nous suivaient par ce fait ont été agréablement surpris
mais...
puisque pour le public français en tout cas. donc c'est cool, on a déjà eu des retours là-dessus.
On peut vous suivre sur les réseaux sociaux.
Oui.
Instagram, Facebook.
Ouais. Amort.musique, Amort.musique, MUSIC.
Et La Sorcière est déjà sur toutes les plateformes de streaming.
Oui.
Il y a effectivement, oui, ce site internet amort.musique.
Alors, il n'y a pas le point dans le site internet, c'est amortmusique.com.
Amortmusique.com. Et puis, le clip qui sort donc demain pour voir le visuel.
En c'est ça.
On profite de l'audio. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Merci. À très bientôt.
Au revoir. She wants to heal.
C'était la sorcière du groupe Amor qui était donc avec nous aujourd'hui en studio. Et puis je vous rappelle que le clip sera retrouvé dès demain sur YouTube. On va retrouver nos chroniqueurs dans quelques secondes. Avant, on fait une petite incartade musicale. Je vous propose d'écouter, tiens, pourquoi pas, Tobacco Road de Eric Burdon et du groupe War. Tobacco Road, c'était War et Eric Burdon. Allez, il est l'heure d'une petite rubrique florale.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplopusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir l'égopode, un excellent légume sauvage, abondant, savoureux, nutritif et facile à reconnaître. On surnomme cette plante l'herbe aux gouttes. Son nom scientifique est Egopodium podograria. Ego, du grec qui veut dire chèvre, et podium, petit pied. Ceci en lien avec la forme de ses folioles. C'est une plante de la famille des Apiacées, nommée anciennement les ombellifères. Il y a aussi dans cette famille l'angélique sylvestre, le céleri, le fenouil, mais aussi certaines plantes toxiques, comme petite ou grande ciguë. L'égopode est une plante vivace, de 30 à 90 cm de haut, complètement glabre, c'est-à-dire sans poils, dans toutes ses parties. Les feuilles de l'égopode sont divisées en trois folioles, elles-mêmes divisées en trois sous-folioles plus ou moins marquées. C'est ce qui leur donne leur apparence caractéristique. Notre plante développe ses feuilles avant sa tige. Ces dernières sortent directement du sol et sont portées par un long pétiole, qui veut dire tige de la feuille, de section triangulaire et creusée en gouttière sur le dessus, en forme de V sur le dessous. Vous pourrez les voir sur la photo en podcast. Au froissement, son odeur rappelle celle du céleri ou de la carotte. L'égopode développera plus tard sa tige dressée, robuste, creuse et sillonnée dans sa longueur. Son inflorescence en ombelle de petites fleurs à 5 pétales blancs est délicate. Une pure merveille que je vous conseille d'observer à la loupe. Les jardiniers la connaissent pour être une plante qui envahit les cultures avec ses longs rhizomes traçants. Notre plante nous indique qu'autrefois poussait là la forêt, car c'est son habitat naturel. L'égopode est une plante assez commune sur l'ensemble du territoire français. Elle est cependant absente de certaines régions du littoral et de la zone méditerranéenne. Une confusion serait possible avant le développement de la tige avec l'angélique sylvestre qui est comestible et qui fréquente les mêmes milieux. Les toxiques de la même famille, telles la grande ou la petite ciguë, sont bien différentes car elles ont toutes des feuilles beaucoup plus finement découpées que l'égopode, ce qui écarte le danger de confusion. En cuisine avec notre égopode maintenant. C'est un délicieux légume et condiment. Les jeunes feuilles que l'on peut cueillir actuellement dans notre région sont très tendres et ont une saveur fine et aromatique. On peut les incorporer dans les salades et en faire la base principale, car elles forment des colonies très denses, donc il est facile d'en cueillir une grande quantité. Pour les feuilles développées, on peut en profiter jusqu'en automne, en les cuisinant, en soupe ou en légumes. Intégrées dans des quiches, gratins ou sous forme de farce pour fourrer des chaussons ou des cappelletti. On prendra alors soin, pour ces feuilles plus âgées, de retirer le pétiole devenu trop dur. Aucune autre précaution particulière pour l'égopode. Ses vertus maintenant. Comme son surnom l'indique, l'herbe au goûteux est une plante diurétique qui élimine l'acide urique. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour soigner la goutte. Les feuilles d'égopode contiennent des protéines complètes, des vitamines et des minéraux. Alors, j'espère vous avoir convaincu d'aimer cette mauvaise herbe du jardin. Je vous souhaite une bonne cueillette.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Allez, tout de suite, Because of You, c'est Yuxek et Isaac Delejeune qui nous chantent ce titre.
Just because of you, it's just because.
C'était Yuxek et Isaac Delusion avec Because of You.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune. C'est la mort.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, tout de suite, on retrouve le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
On a fini notre série sur la politique industrielle.
Oui, parce que bon, c'était quand même un peu chiant.
Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du monde des entreprises.
Ouais.
Mais, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te faire de développement sophistiqué à la prof Patrick. Non, je vais juste vous raconter deux histoires, okay, deux anecdotes, et je vais en tirer une morale de l'histoire.
Ok, les fables du prof Patrick.
Voilà, là, j'ai trouvé un chouette titre. Les entreprises et l'éthique, deux histoires, une morale. Je suis content de mon titre.
C'est beau.
On commence avec la première, c'est pas logique. En 2021, une jeune femme, appelée Samira Rilassi, décide de changer de carrière. Elle a des problèmes de santé et son activité qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle est ATSEM. ATSEM, c'est les dames qui aident les instits en école primaire, et elle est AESH, les dames qui aident les profs en collège. Ils aident des élèves en difficulté. Elle a des problèmes de santé qui fait qu'elle, ça devient très difficile, voire impossible de continuer ses activités. Donc elle se dit, je vais réaliser le projet dont je rêve depuis longtemps. Je vais créer ma marque de cosmétiques.
Ok.
Donc 2021, elle prend un statut d'auto-entrepreneur, elle dépose sa marque qu'elle a trouvée, l'Instinct Paris. Okay. Donc elle les dépose à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, c'est l'organisme public qui va vérifier que c'est pas déjà pris et qui va donc le protéger, moyennant une certaine somme. Elle choisit elle-même les textures, les odeurs auprès d'un laboratoire, elle commande tout ça et elle crée sa marque et elle démarre. Et attention, là je vais passer au second degré, hein, humour noir, d'accord. Et c'est à ce moment que le premier groupe mondial du luxe français, le groupe LVMH, perçoit la menace de Samira Rilassi, la menace pour sa survie. Tu comprends ?
Ouais.
Eh oui, bien sûr. Alors, je vous explique, hein, parce que vous n'avez pas compris. LVMH compte 75 marques. Parmi ces 75 marques, il y a une marque qui s'appelle Givenchy L'Instinct. Mmh. L'Instinct, okay, présent dans les deux dénominations. Donc, c'est insupportable pour LVMH. Fin 2021, ils entament une procédure auprès de l'INP, l'organisme officiel, hein, pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de Madame Rilassi. L'INP, il en vaut bouler. Hein. Parce qu'en fait, le point commun, c'est l'instinct. L'instinct, c'est un terme générique qu'on ne peut pas le considérer comme sa propriété. C'est pas possible.
Ah, bah oui, sinon on ne peut plus. Bah
non, sinon, on ne peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Donc, sa demande n'est pas recevable. Il n'y a pas plagiat. Tu ne seras pas un peu de mauvaise foi, mon avis, LVMH, là, quelque part. Mais ce qui est bien quand on est une multinationale, Mathieu, c'est qu'on a plein de fric.
Ben oui, on peut faire plein de choses.
Et donc, quand on a plein de fric, qu'est-ce qu'on fait ?
On rachète ?
Non, non, même pas, ça serait trop sympa. Non, non, on va étrangler son adversaire en l'attaquant encore et encore en justice. Et c'est ce que fait donc LVMH. Il lance une nouvelle procédure le 7 juin 2022 en nullité. Évidemment, en face, la petite chérie, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a tout mis dans son truc, elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. C'est le pot de terre contre le pot de fer, ou plutôt contre le géant de fer, hein, d'accord. Et donc le pot de terre se brise. Elle a mis tout son argent dans son activité, elle ne peut pas se payer un avocat, elle a écrit 4 fois au domicile personnel de Bernard Arnault. Vous savez, Bernard Arnault, première fortune mondiale, qui vient d'être détrôné, deuxième fortune mondiale, patron d'LVMH. C'est un grand humaniste, c'est un mécène, c'est un ami des arts. Va mourir, hein. Il n'a jamais répondu.
Ouais.
Elle propose alors, tiens, tu viens de le dire, à LVMH de lui racheter sa marque. Ça se fait facilement, hein, ils ont l'argent, il n'y a pas de problème. Alors, ils vont répondre en mode, tiens, là, la tête sous l'eau, si on l'enfonçait encore un peu plus. Et donc, ils vont lui faire une proposition qu'elle décrira comme humiliante.
Ouais, un euro symbolique.
Voilà. À ce moment de l'histoire, on est en 2022, Samira n'a plus d'argent, elle est au RSA. Et pour info, elle a un statut handicapé.
Ouais.
Bon, on est soulagé, hein, on a cru qu'LVMH allait vraiment être menacée dans son existence.
Ils ont eu chaud.
Ouais. On est rassuré là, quand même. Petit problème. Le 28 avril, le journal local L'Indépendant révèle cette affaire. Un peu gênant, mais bon, c'est un journal local, on s'en fout un peu. Plus gênant encore, le 5 mai, LVMH reçoit des coups de fil, ou des mails, je ne sais pas trop, de la part de Mediapart. Vous savez, Mediapart, le fouille merde, là, celui qui énerve tout le monde. Ça, c'est pas bon pour l'image de marque Coco, parce que Mediapart, c'est pas l'indépendant en termes d'impact. Résultat, ça traîne pas. Donc le 5, ils reçoivent un contact de Mediapart. Le 6, le lendemain, une représentante d'LVMH appelle en personne Samira Rilassi, Rilassi, excusez-moi. Ils m'ont proposé un accord à l'amiable permettant d'éponger les dettes que j'ai reçues, les pertes que j'ai eues. Elle était très sympa au téléphone, beaucoup d'empathie. J'ai presque cru que tout allait se terminer sur une note positive. Je viens de citer Samira. En gros, la dame de LVMH lui explique que bien sûr qu'ils arrêtent les poursuites, mais aussi qu'ils vont l'aider financièrement à relancer son activité. Sauf que Sauf que Mediapart publie quand même son article le 15 mai.
Ouais.
Eh ben ouais. Là, côté LVMH, les dégâts sont faits. Hein. Pourquoi s'emmerder à aider Samira? Alors, ils arrêtent là la procédure, c'est tout. Elle n'entendra plus parler de LVMH.
Ok.
Fin de ma première histoire.
Bon.
Deuxième histoire?
Ouais, c'est des histoires d'horreur pour jeunes entrepreneurs, ça.
Ah, on va passer à une autre multinationale, vous allez voir. On va passer à Total Energy. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez Yamina Saeb?
Non.
Bah moi non plus, je ne la connaissais pas. Et moi, c'est un peu la honte. Parce que c'est une économiste réputée mondialement pour son expertise sur la question du réchauffement climatique. La preuve, elle est l'autrice principale du troisième volet du dernier rapport du GIEC. Donc c'est une pointure, hein. Attention. Et c'est à ce titre de grosse pointure qu'elle est invitée le 23 mai dernier, il n'y a pas longtemps, à une table ronde organisée par HEC, la grande école française, sur la question suivante. Comment opérer la transition d'une économie fondée sur les énergies fossiles à une économie fondée sur les énergies renouvelables? Ça, c'est une bonne question, il l'invite, c'est bien. En face d'elle, notez bien, divers interlocuteurs, dont la vice-présidente de Total, chargée de la soutenabilité et du climat, Madame Carole Le Gall. Donc attention, hein, vice-présidente de Total, une grosse pointure. Madame Le Gall est donc chargée de vendre, entre guillemets, aux médias, la stratégie de transition énergétique de Total Energy. Bien. Je ne vous cacherai pas que cette stratégie est très, très critiquée. Alors habituellement, les scientifiques, c'est des gens très prudents, hein, d'accord? Ils mesurent leurs paroles, ils pèsent le pour et le contre, ils parlent de façon complexe, souvent on n'y comprend rien, d'accord? Bah, cette fois, pas du tout, dis donc. alors, ils parlent en anglais, hein, je mettrai les liens, dans les liens toute la possibilité d'écouter Madame Saeb, mais comme ils parlent en anglais, je vous présente la traduction de ce que Yamina Saeb va balancer à la figure de la vice-présidente de Total. Avec mes remerciements à Clément Jeannot et son blog Nourriture Terrestre, qui ont fait le travail. J'ouvre les guillemets, c'est Yamina Saeb, la scientifique, la sommité, qui parle à Carole Le Gall, vice-présidente de Total. L'usage abusif de la science par les entreprises des énergies fossiles n'est pas nouvelle, mais l'utiliser de cette manière est assez choquante pour nous scientifiques. Avant de parler de vos chiffres, Carole, nous avons regardé avec mes collègues ce qui se trouve dans le rapport Total de 2022. Total prévoit d'investir 16 milliards par an entre 2022 et 2025 dans le secteur de l'énergie, dont 70% de ces investissements dans les énergies fossiles.
Ouais.
Investir dans les énergies fossiles signifie investir dans le changement climatique. C'est toujours Yamina qui parle. Donc d'un côté, on a la science qui nous dit qu'on doit réduire les émissions de près de 50% par rapport à aujourd'hui et que c'est la seule façon de garder la planète vivable. De l'autre, on a une des principales entreprises d'énergie fossile au monde, Total, qui dit qu'elle va continuer à développer les fossiles. C'est une contradiction majeure et cela ne devrait pas se produire du tout. Je continue, c'est toujours Yamina qui parle à Carole Le Gall. En réalité, je me suis demandé si c'était une bonne chose de venir ici. Mais je suis venu parce que nous devons arrêter de nous mentir. Le titre de cette table ronde porte sur la transition et la transformation. Mais il ne devrait pas s'agir de transition et de transformation. Il devrait s'agir de mettre fin à l'énergie des fossiles, à l'ère des fossiles, dès maintenant. Nous pouvons le faire parce que nous devons le faire. C'est ce que vous devez faire, elle parle à Carole Le Gall, vice-présidente de Total. Or, ce n'est pas ce que fait l'industrie des énergies fossiles. Aujourd'hui, nous devrions arrêter de parler de changement climatique. Nous devrions commencer à parler de crime climatique. Et ceci est la continuation du crime climatique. Nous devons mettre fin à l'ère des fossiles, sinon il n'y aura plus de vie sur cette planète. Pouvez-vous juste reconnaître, Carole Le Gall, elle est en face d'elle, elle lui parle directement, que vous contribuez à mettre fin à la vie sur cette planète? C'est ce que vous faites. Ce n'est tout simplement plus possible. Ce n'est plus possible. Fin de citation.
Aïe, aïe.
Donc vous avez entendu, une des plus illustre représentante de la science appelle un chat un chat. Total ouais. Energy est un criminel climatique qui contribue à mettre fin à la vie sur notre planète. Morale des deux histoires. Il est vain d'attendre des entreprises un comportement moral ou éthique.
Ouais.
Les entreprises à partir d'une certaine taille sont des organisations totalement impersonnelles, dont l'existence n'a qu'une seule finalité, réaliser encore et toujours plus de profits. Alors les enseignants vont me dire « Ouais, mais attends, il y a les finalités sociales, sociétales. » Oui, elles sont secondaires. D'accord ? La finalité prioritaire, c'est réaliser du profit. Les entreprises ne sont pas immorales, elles sont amorales, à côté de la morale. La morale n'est pas un champ pertinent pour elles. Le champ des débats sur l'éthique leur est fondamentalement étranger. Il faut le savoir et comprendre que deux choses les forcent à infléchir leur marche folle. Un, la pression de la société civile, c'est ce qui est arrivé dans la première histoire avec LVMH. Mmh. Deux, les pressions de la loi, c'est ce qui n'est pas suffisant. La loi n'est pas suffisamment structurée parce qu'encore faut-il que le pouvoir politique soit à la hauteur de l'enjeu. Donc la deuxième histoire, malheureusement, on n'a pas de pression suffisante de la loi.
Ouais.
J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick, pour ces belles histoires. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera retrouvée sur notre site internet radio-calade.fr. Rediffusion demain matin à 10h. Prenez bien soin de vous. À demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.